Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 15. Le dernier jour de Moscou se leva enfin. C'était un dimanche. Une belle et claire journée d'automne, égayée par le carillon de toutes les églises qui appelaient, comme toujours, les fidèles à la messe. Personne ne pouvait encore admettre que le sort de la ville allait se décider et l'agitation inquiète qui y régnait ne se manifestait que par la cherté excessive de certains objets et par la masse de pauvres gens qui circulaient dans les rues. Une foule d'ouvriers de fabriques, de paysans, de domestiques, à laquelle se joignirent bientôt des séminaristes, des fonctionnaires civils et des gens de toutes conditions, se porta dès le point du jour vers les trois montagnes. Arrivée sur les lieux, cette cohue y attendit Rostopchine. Ne le voyant pas arriver et convaincue que Moscou serait inévitablement livrée à l'ennemi, elle retourna sur ses pas et se répandit dans tous les cabarets et dans tous les bouges. Ce jour-là, le prix des armes, des charrettes, des chevaux, de l'or, allait continuellement haussant, tandis que celui des assignats et des objets de luxe baissait de rang en heure. On payait 500 roubles un cheval de paysan, et l'on pouvait avoir presque pour rien des bronzes et des glaces. Le calme et patriarcal intérieur des Rostov ne se ressentit que faiblement de l'agitation et du désordre du dehors. Toutefois, trois de leurs gens disparurent de la maison, mais rien n'y fut volé. Les 30 charrettes venues de la campagne représentaient à elles seules une fortune, tant les moyens de transport étaient devenus rares, et plusieurs personnes vinrent à offrir au comte des sommes énormes. La cour de leur hôtel ne désemplissait pas de soldats envoyés par leurs officiers qui avaient été recueillis dans le voisinage et de malheureux blessés qui demandaient en grâce au maître d'hôtel de prier le comte de leur permettre de profiter des charrettes pour quitter Moscou. Malgré la compassion qu'il éprouvait pour ces pauvres diables, le maître d'hôtel répondait invariablement à leurs prières par un refus catégorique.
« Ils n'oseraient jamais,
disait-il,
importuner le comte de leurs requêtes. Et d'ailleurs, si on cédait une des charrettes, quelle raison y aurait-il de ne pas les céder toutes et même ses propres voitures ? Ce n'était pas avec 30 charrettes qu'on pouvait sauver tous les blessés, et dans le malheur général, il était du devoir de chacun de penser aux siens avant tout. »
Pendant que le maître d'hôtel parlait ainsi au nom de son maître, celui-ci s'éveillait, quittait doucement sur la pointe des pieds la chambre à coucher conjugale, afin de ne pas déranger la comtesse, et gagnait le perron, où on le vit bientôt apparaître dans sa robe de chambre de soie violette. Il était de fort bonne humeur. Toutes les voitures étaient chargées et stationnaient devant l'entrée. Le maître d'hôtel causait avec un vieux domestique militaire et un jeune et pâle officier qui avait le bras en écharpe. À la vue du comte, Vassilitch leur intima d'un geste sévère l'ordre de s'éloigner.
« Eh bien, tout est-il prêt ?»
lui demanda le comte en passant la main sur son front chauve et en saluant avec bienveillance l'officier et le planton.
« Il ne reste plus qu'à atteler, Excellence. » « C'est parfait, la comtesse va se réveiller, et alors, avec l'aide de Dieu... Et vous, messieurs ?»
ajouta le comte, qui aimait les nouvelles figures.
« Vous êtes-vous au moins abrité chez moi ?»
L'officier se rapprocha, et ses traits pâlis par la souffrance se colorèrent subitement.
« Monsieur le comte, au nom du ciel, permettez-moi de me fourrer quelque part sur une de vos charrettes de bagages. Je n'ai rien en fait d'effet, je m'en accommoderai très bien. »
Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase que le vieux planton adressa au comte la même prière au nom de son maître.
« sans doute, très volontiers, »
répondit le comte.
« Vassilitch, tu veilleras, n'est-ce pas, à ce que l'on décharge une ou deux charrettes. On en a besoin, tu vois. »
Et, sans s'expliquer plus clairement, il détourna vivement la tête d'un autre côté, pendant qu'une expression de vive reconnaissance illuminait le visage de l'officier. Le comte, ravi de sa bonne action, jeta un coup d'œil autour de lui. La cour se remplissait de blessés, il en venait de toutes parts à sa rencontre, et les fenêtres de l'aile gauche se garnissaient de figures blêmes qui le regardaient avec une anxiété douloureuse.
« Plairait-il à votre excellence de passer dans la galerie ?»
dit le maître d'hôtel d'un air inquiet.
« On n'a encore rien décidé au sujet des tableaux. »
Le comte rentra chez lui, mais non sans avoir réitéré l'ordre de ne pas refuser aux blessés les moyens de partir.
« Après tout, on peut bien décharger quelques caisses et les laisser ici. »
dit le comte à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. La comtesse se réveilla à 9 heures, et Matrona Timofevna, son ex-femme de chambre qui remplissait auprès d'elle les fonctions de chef de la police secrète, vint lui dire que Madame Schoss était très mécontente et qu'on avait oublié d'emballer les robes d'été des demoiselles. La comtesse ayant demandé quel était le motif de la mauvaise humeur de Madame Schoss, on lui apprit que sa caisse avait été enlevée d'une des charrettes, qu'on était en train de décharger les autres, que les effets s'entassaient dans un coin de la cour et que le comte avait dit d'emmener les blessés à leur place. Elle fit aussitôt demander son mari. « Que se passe-t-il donc, mon ami? On m'assure que tu fais des balais ?»«
J'allais justement t'en prévenir, ma chère. C'est que, vois-tu, petite comtesse, des officiers sont venus me supplier de leur céder quelques charrettes pour les blessés. Ces objets-là nous sont bien inutiles, n'est-il pas vrai? Et puis, comment abandonner ici ces pauvres gens? C'est nous qui leur avons offert l'hospitalité, et je pense, ma chère, que dès lors, ils seraient bien... Pourquoi ne pas les emmener? Il n'y a pas du reste de raison de se dépêcher. »
Le comte avait débité ses phrases sans suite d'une voix timide, comme lorsqu'il s'agissait de questions d'argent. La comtesse, habituée à ce ton, qui précédait toujours l'aveu de quelques grosses dépenses, telles que la construction d'une galerie ou d'une orangerie, l'organisation d'une fête ou d'un spectacle d'amateurs, avait pris pour système de le contrecarrer toutes les fois qu'il prenait ce ton-là pour demander quelque chose. Elle prit donc son air de victime résignée et, s'adressant à son mari, « Écoute, comte, tu as si bien fait qu'on ne te donne pas un copec de notre maison et tu veux encore dilapider ce qui reste de la fortune de tes enfants. Tu m'as dit toi-même que tout notre mobilier valait 100 000 roubles. Eh bien, mon cher, je ne tiens pas à l'abandonner. Tu feras comme tu voudras, mais je n'y consens pas. C'est au gouvernement à prendre soin des blessés. Regarde là-bas, en face, chez les Loupokine. On a tout emporté. C'est ainsi qu'agissent les gens raisonnables. Et nous, nous sommes des imbéciles. De grâce, aie pitié de tes enfants si tu n'as pas pitié de moi. » Le comte baissa la tête et quitta la chambre d'un air désespéré.
Papa, qu'as-tu donc ?
Demanda Natacha, qui était entrée sur les talons du comte dans la chambre de sa mère et qui avait tout entendu.
Ce n'est rien, cela ne te regarde pas,
lui répondit son père.
Mais j'ai tout entendu, papa. Pourquoi maman refuse-t-elle ?
Qu'est-ce que cela te fait ?
Reprit le comte avec irritation. Natacha se retira dans l'embrasure de la fenêtre d'un air soucieux.
« Papa, voilà Berg qui est arrivé. »